dévoile ce qu'il y a de plus profond dans notre cœur humain, créé à l'image de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus profond. L'attribut par excellence de Dieu, c'est la miséricorde. Et donc, si l'attribut par excellence de Dieu est la miséricorde, je comprends que ce qu'il y a de plus fondamental dans le cœur de l'homme en tant qu'il est créé à l'image de Dieu, c'est sa capacité de miséricorde. Et supprimer ça, c'est supprimer du cœur de l'homme sa capacité, ou plus exactement son image, par où il est image de Dieu. Des choses qui me semblent très importantes. C'est par où l'homme est le plus proche de Dieu, donc par où il y a en lui l'image de Dieu, et c'est en même temps ce qu'il ne peut pas réaliser par lui-même. On ne peut pas acquérir la miséricorde sans la grâce de la charité. Impossible. Alors on comprend la question que nous allons voir tout de suite. La miséricorde est-elle la plus grande des vertus ? Après ces paroles, revêtez-vous comme les bien-aimés de Dieu d'entrailles de miséricorde. L'apôtre ajoute, mais surtout revêtez-vous de la charité, qui est donc une vertu encore plus grande. Alors voici le raisonnement de saint Thomas. Une vertu peut être dite la plus grande de deux manières. Donc on va essayer de hiérarchiser les vertus et de comprendre ce qui commande la hiérarchie et l'ordre entre les vertus. Donc une vertu peut être dite la plus grande de deux manières, en elle-même et par rapport au sujet qui la possède, c'est-à-dire l'homme. Alors, en elle-même, la miséricorde est la plus grande des vertus, car il lui appartient de donner aux autres, et qui plus est, de soulager leur indigence, ce qui est le propre d'un être supérieur et de Dieu, avant et plus que tout autre. C'est par là surtout qu'il est dit manifeste, c'est par là qu'il est dit manifester sa toute-puissance. Mais c'est par là surtout qu'il dit manifester sa toute-puissance. Donc voyez bien ce qu'on regarde. En elle-même, la miséricorde est la vertu la plus parfaite. Pourquoi ? Parce que c'est la vertu du supérieur. Vous comprenez bien, on ne dit pas de celui qui exerce l'autorité, hein, faisons attention, mais du supérieur, c'est-à-dire de celui qui possède éminemment les vertus. Supérieur au sens tout à fait profond, qualitatif. C'est un être supérieur et de Dieu. C'est le propre de Dieu. Puisque on est miséricordieux si on est source d'amour pour les autres. Si on est source de tendresse pour les autres. Si on compatit aux autres. Donc c'est toujours la vertu de celui qui est supérieur. Celui qui est capable d'aimer d'une façon telle qu'il porte la misère de l'autre. Par rapport au sujet, la miséricorde n'est la plus grande des vertus que dans le plus grand des êtres. Aucun autre n'étant au-dessus, mais tous les autres au-dessous de lui. Pour quiconque a un supérieur, ça c'est très très joli, donc nous, pour quiconque a un supérieur, la créature, s'unir à lui est plus grand et meilleur que de suppléer ce qui manque à un inférieur. Oui, ça, c'est le grand principe de la supériorité de la vie contemplative. La vie apostolique, c'est d'être source de miséricorde. La vie contemplative, c'est d'être uniquement lié à Dieu. Et voyez ce que dit saint Thomas ici. Pour quiconque a un supérieur, s'unir à lui est plus grand et meilleur que de suppléer ce qui manque à un inférieur. Des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi. C'est ça que Jésus veut faire comprendre. Or, l'homme a Dieu au-dessus de soi. La charité qui l'unit à Dieu vaut donc mieux pour lui que la miséricorde qui secourt le prochain, le pauvre. Mais il faut ajouter que parmi les vertus relatives au prochain, la miséricorde est meilleure comme le miséricordieux lui-même, car celui qui enrichit l'indigence est du moins sous ce rapport supérieur et meilleur. Donc par rapport aux vertus qui regardent le prochain, il est évident que la miséricorde est supérieure à la justice. C'est pour ça qu'on aime mieux exercer la miséricorde qu'exercer la justice. On exerce toujours la justice un peu à contre-cœur, parce qu'on est obligé de le faire. Autrement, normalement, on aime à l'égard du prochain d'exercer la vertu la plus parfaite, la miséricorde. Et la miséricorde est dépassée par la charité qui nous unit à Dieu, parce qu'il est plus grand d'être uni à son supérieur que d'être source de bien vis-à-vis de l'inférieur. Donc ça, c'est facile à comprendre, je crois. Mais c'est très important, vous voyez, ça n'a l'air de rien. C'est dans ces lieux-là, vous voyez, où vous devez comprendre la supériorité de la vie contemplative sur la vie apostolique. Parce que quand vous regardez dans la vie apostolique, vous voyez, saint Thomas dit, c'est supérieur d'illuminer d'illuminer les autres que d'être lumière. Donc la vie apostolique est supérieure. Hein ? Alors mettez ces deux principes l'un à côté de l'autre. Hein ? Et comprenez. Et vous voyez tout de suite. Vous voyez tout de suite. En soi, c'est supérieur d'illuminer que d'être lumière. Par rapport à la créature, c'est supérieur d'être uni à son supérieur que d'éclairer les autres. Vous voyez ? Saint Thomas ne fait pas cette distinction-là. Alors qu'ici, il fait la distinction, et c'est ça qui est très beau et qui est intéressant pour nous. Oui. Un peu. Bon. Oui. Vous voyez ? La distinction que fait saint Thomas ici est très importante. Quand je regarde une vertu ou une activité par rapport à une autre activité, ce serait la même chose. L'ordre des valeurs, si vous voulez. On dirait aujourd'hui l'ordre des valeurs. Comment pouvoir hiérarchiser une valeur ? Bon, saint Thomas fait tout de suite cette distinction, qui est très importante, pour avoir un peu de précision. Si je regarde la vertu en elle-même, ou si je la regarde par rapport au sujet, en elle-même, il est plus parfait d'être source que d'être réservoir. Il est plus parfait de donner que uniquement avoir. C'est sûr. Mais si je regarde par rapport au sujet, c'est-à-dire l'homme, en tant que créature, je dois reconnaître que aimer Dieu, c'est plus parfait que d'être source à l'égard du prochain. Puisque c'est plus parfait de s'unir à l'être plus parfait, donc de s'agrandir, que d'être simplement celui qui regarde le prochain. Vous voyez ? Donc, vous voyez, il faut tout de suite regarder le contexte. Hein. Si je regarde la vertu, telle activité en elle-même, ou si je la regarde par rapport au sujet. Si je la regarde en elle-même, je dirais que c'est plus parfait d'illuminer que d'être simplement lumière. C'est sûr. Mais si je regarde par rapport au sujet qui possède cela, c'est plus parfait d'être uni à sa source, c'est-à-dire à son supérieur, que de regarder l'inférieur.
Comment réconcilier quand même les deux, la première position qui est critique
On fait une petite distinction, vous voyez, c'est très beau ça.
Et ensuite, comment les réconcilier ?
On les réconcilie pas. On voit tout simplement que c'est le statut de la créature.
C'est pris entre les deux.
Non. Non, parce que quand je regarde les choses en soi, c'est plus abstrait. Vous voyez, ce serait le regard, un regard plus abstrait et un regard plus concret. Quand je regarde le regard plus concret, je regarde l'homme à qui appartient cette vertu. L'état existentiel, vous voyez, de la vertu. L'état existentiel de la contemplation et de la vie apostolique. En définitive, la réconciliation, elle se fait parce qu'on va faire la volonté de Dieu. Et alors, ce qui est plus parfait en définitive, ce sera ça.
Donc, en définitive, il n'y a pas plus d'absolu d'un côté de l'autre. C'est
oui, il y a un absolu.
Il le dit. La volonté de Dieu qui est absolue.
Il le dit. Ouais. Noblesse ne oblige. Vous voyez, il y a un absolu plus grand objectif. C'est comme dans la virginité, le mariage. Vous voyez, il y a des mères de famille qui sanctifieront plus que des religieuses fainéantes, dites contemplatives, et qui ont choisi la contemplation pour être roi des fainéants. N'est-ce pas ? Alors à ce moment-là, vous voyez bien, c'était évident que la Marthe, à ce moment-là, elle se dévoue avec une espèce de dévouement extraordinaire. Donc c'est au point de vue de l'exercice. Mais en soi, il reste toujours plus parfait que la virginité qui est le don à Dieu, au supérieur, que d'être source pour d'autres. Oui, c'est le même principe. Hein. Exactement le même principe. Et c'est très beau, ça. Bon, on va s'arrêter. C'est plus parfait. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne crois pas qu'on puisse dire ça, je crois qu'on peut, parce que c'est en soi aussi.
Pas les mêmes mots.
Non, c'est pas les mêmes mots, c'est sûr, c'est pas les mêmes mots, mais c'est quand même exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben oui. Ben oui. Exactement la chose. Je peux prendre le sujet à ce moment-là. Pour le sujet qui vide sa connaissance, est-il plus parfait de contempler Dieu ou de communiquer aux autres ? Ben c'est plus parfait de contempler Dieu. C'est évident. Vous voyez ? Ce qui est étudié à la source. Là, c'est la même chose. C'est aussi de l'ordre des valeurs. Vous voyez ? Je ne crois pas qu'on puisse dire une distinction là, au point de vue amour et au point de vue intellectuel. Vous voyez ? C'est plus visible dans l'amour, voilà ce que je dirais. Ça se voit plus vite immédiatement, mais c'est la même chose. La distinction en soi est quoi de nos par rapport au sujet. Donc la distinction en soi d'une façon plus abstraite est le point de vue de l'exercice. Le point de vue de l'exercice qui prend toujours le point de vue du sujet. Objection, première objection. Oui, sans doute, le culte divin n'est-il pas l'objet suprême de la vertu ? Cependant, la miséricorde est déclarée par Dieu même meilleure encore. Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Alors, la réponse de saint Thomas. C'est vrai, c'est la miséricorde, ça. Les sacrifices extérieurs et les offrandes qui font partie du culte divin ne sont pas pour Dieu lui-même qui n'en a pas besoin. Mais il les veut pour exercer notre dévotion et aider le prochain. C'est pourquoi la miséricorde qui secourt l'indigence est un sacrifice plus agréable à Dieu, étant plus immédiatement utile au prochain. Selon cette parole de saint Paul, n'oubliez pas n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité car Dieu se plaît à de tels sacrifices. Donc, vous voyez, contemplation, liturgie et miséricorde. Alors, il faut mettre l'ordre, contemplation, miséricorde, liturgie. Au point de vue ordre objectif. Et dans la miséricorde, il faudrait regarder tous les exercices de miséricorde. Et vous savez, quand saint Thomas parle de la miséricorde, justement dans les diversités de miséricorde, il montre que la première miséricorde, c'est la prière pour le prochain. C'est prier pour le prochain. Puis c'est l'illuminer, c'est l'éclairer. Alors là, on voit le point de vue de la connaissance. Puis après, c'est l'aider dans ses maladies corporelles ou ses misères. L'éduquer. Vous voyez, l'enseignement vient immédiatement après la prière, comme œuvre de miséricorde. Alors évidemment, il y a diverses manières d'enseigner. Il y a divers enseignements. Comme disait le Saint-Père à Fribourg, il y a les sciences, savoir et sagesse. Alors, bon, il faut respecter les trois. Deuxième objection. Sur ce mot de saint Paul, la piété est utile à tout. La glose dit, la discipline chrétienne tout entière tient en ces deux mots, miséricorde et piété, qui sont donc les deux vertus maîtresses. Réponse. La miséricorde est toute la religion chrétienne quant aux œuvres extérieures. Mais le sentiment intime de charité, vous voyez, alors, le sentiment intime de charité, ça se traduit très mal, évidemment, en français. Le sentiment intime de charité qui nous unit à Dieu l'emporte sur l'amour et la miséricorde envers le prochain. Donc, en réalité, il dit « interior tamen affectio caritatis ». Donc, « affectio caritatis », traduire le sentiment intime de charité. Faisons attention, ce n'est pas le sentiment comme nous le disons habituellement. C'est l'acte intérieur d'amour, l'affectio, ce qu'il avait dit précédemment. C'est l'acte intérieur d'amour. Donc, c'est cette volonté profonde d'aimer Dieu, cette volonté intime d'aimer Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Dans la prime, dans la primo, vous dites. Quel moment ? Je ne vois pas. Prior affectio caritatis. Oui, oui. Vous pouvez lire le passage ? Ah, vous ne l'avez pas en latin ? Vous l'avez qu'en latin ? Alors très bien, alors lisez en latin. Oui, alors ça vous fait difficulté. Parce que là, il me semble qu'il le prend par rapport au prochain, plus.
Et l'autre, plus
du côté par rapport à Dieu. Ici, c'est par rapport à Dieu. Interior tamen affectio caritatis, qua conjungimur Deo, preponderant et dilectionis, et misericordiae in proximus. Vous voyez ? Alors, dilectio regarde le prochain. Et affectio caritatis regarde Dieu. Oui.
Et dévotio,
c'est encore par rapport à Dieu, mais c'est plus lié plus au sentiment de piété, la dévotion. Vous voyez. C'est pas l'acte premier de l'amour. C'est un amour impéré qui se lie à la vertu de religion. elle la rendira dévotio. Vous voyez ?
C'est plus la liturgie.
Oui, c'est plus la liturgie, beaucoup plus. Quoique la dévotion, c'est l'acte intérieur de liturgie. Hein. C'est pas l'acte extérieur. Mais c'est plus, le point de vue de la dévotion, c'est plus lié à une œuvre. Vous voyez ? On a une ardeur de dévotion dans la liturgie pour chanter, louer Dieu.
Donc on pourrait dire que la dévotion est à la liturgie, à l'extérieur, ce qui est la caritas, à la miséricorde, etc.
Ah ouais, la miséricorde, ça ne regarde pas Dieu. Vous voyez ? Oui. C'est l'acte d'amour vers Dieu, il est intérieur. Et il n'y a pas d'acte extérieur vis-à-vis de Dieu, en dehors de la liturgie, en dehors de... Vous voyez ? Parce que tous les actes extérieurs que vous avez vis-à-vis de Dieu, vous les faites en communauté. Et donc c'est liturgique. Au sens fort, vous voyez ? Alors, dernière objection. La vertu rend bon celui qui la possède. Or, l'homme étant d'autant meilleur qu'il est plus semblable à Dieu, une vertu est d'autant plus grande qu'elle est davantage cette ressemblance. Et c'est ce qu'il y fait excellemment la miséricorde, car Dieu est celui dont la miséricorde s'étend sur toutes les créatures. Celui qu'il faut imiter en cela surtout. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Alors la réponse. La charité nous rend semblables à Dieu. Donc, Per caritatem assimilamur. C'est plus fort. Hein? Par la charité, nous sommes assimilés à Dieu. Donc nous rend semblables à Dieu par l'affection qui nous unit à lui. Tam qua mei per affectum uniti. Elle est donc préférable à la miséricorde qui nous rend semblable à lui seulement par les œuvres. Vous voyez ? Alors ça, c'est la raison profonde du corps de l'article. Être uni à Dieu directement par l'affection et par le cœur, c'est plus parfait que d'être uni à Dieu par la miséricorde, c'est-à-dire faire les œuvres de Dieu. L'affection, l'acte intérieur d'affection, agrandit notre cœur à la dimension de Dieu. Et donc nous unit à Dieu et nous élève jusqu'à Dieu. Et donc c'est plus parfait que d'être semblable à Dieu dans ses œuvres. Donc je crois que là, ça reprend exactement ce qui était dit dans le corps de l'article. Alors voyons tout de suite la question suivante, la bienfaisance. Il faut étudier maintenant les actes ou effets extérieurs de la charité. Vous voyez, la miséricorde est mise comme un acte plus intérieur, hein, pas encore un acte extérieur, pas comme un effet, si vous voulez, tellement elle est liée. Ce sont la bienfaisance, l'aumône, qui fait partie de la bienfaisance, la correction fraternelle, qui est une espèce d'aumône. C'est merveilleux. Quand votre frère vous fait une correction fraternelle, il vous fait une aumône. Hein? Vous n'avez pas toujours cette impression. Votre bourse sera plus lourde après la correction fraternelle. Au sujet de la bienfaisance, on demande... Est-elle un acte de la charité ? Faut-il la pratiquer envers tous ? Davantage envers ceux qui nous sont plus unis ? Est-elle une vertu spéciale ? Donc, est-elle un acte de charité ? La charité est une certaine amitié. Or, Aristote dit que l'un des actes de l'amitié c'est de faire du bien à ses amis. En un mot, la bienfaisance. Faire du bien à quelqu'un, c'est la bienfaisance. Alors, voici le raisonnement de saint Thomas. La bienfaisance, ce n'est pas autre chose que faire du bien à quelqu'un. Mais ce bien peut être envisagé de deux manières. D'abord, sous l'aspect général de bien. Ainsi, il appartient à la bienfaisance en général, c'est un acte d'amitié et par conséquent de charité. En effet, l'acte d'amour ou de dilection inclut la bienfaisance par laquelle on veut du bien à ceux qu'on aime. Et si on le veut vraiment, on le fait selon ses moyens. Faire du bien à un ami est donc une conséquence de l'amour que l'on a pour lui. La bienfaisance, sous son aspect général, est donc un acte d'amitié ou de charité. Mais si dans le bien fait au prochain, on envisage le caractère spécial de tel ou tel bien, la bienfaisance prend elle aussi ce caractère et dès lors se rattache à telle ou telle vertu particulière. C'est assez facile à comprendre. Hein ? Vous avez la bienfaisance d'une façon générale, bien la bienfaisance d'une façon générale, vouloir du bien à quelqu'un. La vouloir du bien à quelqu'un, c'est bien évident que c'est la charité. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que vous l'aimez sans vouloir du bien. C'est absolument impossible. Si vous dites que vous l'aimez, ça veut dire que vous lui voulez du bien. C'est la même chose. Aimer quelqu'un ou vouloir du bien à cette personne, c'est la même chose. Mais vous pouvez prendre aussi la bienfaisance, alors, d'une façon particulière. Mais si le bien fait au prochain, si dans le bien fait on envisage le caractère spécial de tel ou tel bien, la bienfaisance prend elle aussi ce caractère, dès lors elle se rattache à telle ou telle vertu particulière. Vous faites l'aumône, par exemple. C'est un acte de bienfaisance. Vous décrassez son intelligence, c'est un acte de bienfaisance. Vous lui enlevez ses habits pouilleux, c'est un acte de bienfaisance, c'est ça ? C'est vrai, ce sont des actes particuliers. Alors c'est un acte de bienfaisance qui relève de telle ou telle vertu. Bon, alors je regarde maintenant les objections. Une réponse négative semble s'imposer, puisqu'il est impossible d'exercer la bienfaisance à l'égard de Dieu, objet principal de la charité, dont il est écrit, « Que lui donnes-tu ? Que reçoit-il de ta main ?» Ainsi que le dit Denis, « Dans l'effusion d'un mutuel amour, les inférieurs aspirent vers les supérieurs, les semblables s'entrecommuniquent, les plus excellents s'inclinent vers les moins nobles. C'est de cette troisième manière que la bienfaisance est un effet de la dilection. Nous n'avons donc pas à faire de bien à Dieu, mais à lui rendre un culte d'obéissance. C'est à lui de nous faire du bien parce qu'il nous aime. » Bien évident, vous n'allez pas faire de la bienfaisance à Dieu. Vous voyez, c'est le lien de la bienfaisance par rapport à la miséricorde. Hein. Ça ne se fait qu'à l'égard des inférieurs. Comme la miséricorde ne se fait qu'à l'égard de ceux qui sont fêlés, hein, qui sont un peu brisés, mais dans lesquels il y a une misère. Alors vous faites la miséricorde. Être bienfaisant, c'est surtout donner. C'est l'objection, la seconde objection. Ce qui est un acte de libéralité plutôt que de charité. Alors, saint Thomas répond. Dans les dons que l'on fait, deux points sont à considérer. D'une part, la chose extérieure qui est donnée. D'autre part, la passion intérieure, l'attachement aux richesses et le plaisir qu'on y prend. La libéralité a pour fonction de régler ce sentiment, de tempérer ce désir et cette affection, de faire que l'on se plaît à donner. Un don magnifique, mais fait un peu à regret, manque de libéralité. à regarder la chose extérieure qui est donnée. Le don qui en est fait se rapporte à l'amitié et à la charité. Aussi, ce n'est pas d'y déroger, aussi, ce n'est pas y déroger que de donner à un ami une chose que l'on désirerait garder pour soi-même. C'est au contraire faire preuve d'une amitié parfaite. Vous donnez à l'ami ce qui vous est le plus précieux. Je te donne ça à toi, à personne d'autre je ne le donnerai. Et là, vous montrez la qualité merveilleuse de votre amour. Et alors là, ça relève directement de l'amitié, vous voyez. C'est plus de la bienfaisance, au sens propre. C'est directement l'amitié. Et la libéralité, c'est une manière particulière d'exercer la bienfaisance. Vous l'exercez d'une manière libérale. Manière libérale, au point de vue vertu, hein, pas si vous prenez libéral dans un autre sens, parce que ça a pris un sens justement tout à fait différent. Alors il faut bien comprendre, la libéralité ici caractérise une manière particulière d'aimer et une manière particulière de faire la charité. Troisième objection, si ce qu'on donne est une dette, c'est un acte de justice. Si ce n'est pas une, mais un don gratuit, c'est un acte de miséricorde. Donc, en aucun cas, un acte de charité. Dans ce qui est donné, l'amitié ou charité voit un bien à faire, la justice une dette à payer. Mais la miséricorde se place au point de vue spécial d'une misère, d'une indigence à secourir. Donc, il faut bien distinguer charité, justice, miséricorde. Et c'est facile à distinguer. L'amitié voit un bien à faire, la justice un droit à l'égard de l'autre qu'on rend, qu'on fait, et la miséricorde regarde la misère de l'autre. Alors l'article 2, faut-il faire du bien à tous les hommes ? L'apôtre a dit, pendant que nous en avons le temps, faisons le bien envers tous. La bienfaisance est un effet de l'amour. En tant que celui-ci incline les êtres supérieurs vers les inférieurs pour subvenir à leur indigence. Il n'y a pas chez les hommes une hiérarchie aussi immuable que chez les anges. Oui. Oui, vous n'avez pas de chérubin au milieu de vous, n'est-ce pas, ou de séraphin. Non, par la grâce, nous tendons vers tous les degrés différents et on peut y parvenir. Il n'y a pas chez les hommes une hiérarchie aussi semblable que chez les anges. Leur indigence peut être multiple. Telle est supérieure sur un point qui est inférieur sur un autre. Et ainsi, l'amour de charité devant être universel, la bienfaisance doit l'être aussi. Mais selon les temps et les lieux, car tout acte vertueux doit rester dans les limites exigées par les circonstances. Donc tout acte vertueux doit être sous la mesure de la prudence. C'est la prudence qui montre si cet acte doit être posé en fonction des lieux et des temps. Oui. Parler à temps et à contre-temps, c'est pour montrer justement que la charité dépasse la prudence. C'est pour ça qu'on dit à temps et à contre-temps. Parce que si j'étais prudent, je ne parlerais jamais à contre-temps. Tandis que si je suis charitable, je peux parler à temps et à contre-temps. Ça ne veut pas dire casser les pieds de quelqu'un, tu vois. Hein, parce qu'il... Une fois qu'il a le bec ouvert, on ne peut pas l'arrêter, tu vois. C'est, ça arrive de temps en temps, tu vois. Alors, c'est pas de la charité. Alors, voyons tout de suite la première objection. Pardon. À l'impossible, nul n'est tenu. Or, saint Augustin dit qu'il nous est impossible de rendre service à tout le monde. Réponse. Absolument parlant, il est impossible que nous fassions du bien à chaque homme en particulier. Il n'en est cependant aucun qui, à l'occasion, ne puisse nous demander de lui en faire. La charité exige donc que si l'on ne fait actuellement de bien à personne, on ait cependant la volonté toute disposée à en faire à quiconque paraît en avoir besoin. Vous êtes toujours une disposition animée. Vous êtes dans la disposition de l'âme de faire du bien à tous ceux que vous rencontrez et qui auront besoin de vous. Autrement dit, il n'y a pas de repos dans la charité, quoi. Parce que vous devez être toujours dans la disposition d'aider, de soutenir quelqu'un. Alors vous avez fait tout votre boulot et vous rencontrez quelqu'un qui a besoin de vous, vous devez recommencer. Et Simon de Cyrène. Revenant de son travail. Seconde objection. Nombreux sont les pécheurs vis-à-vis desquels il faut obéir au précepte « Fais du bien à celui qui est juste, ne donne pas à l'impie. » Il faut distinguer l'homme et le pécheur. La nature et le péché. Si l'on doit lui donner ce dont sa nature peut avoir besoin, on doit lui refuser ce qui pourrait concourir à son péché. Autrement, ce serait lui faire non pas du bien, mais du mal. Hein? Aider tout homme, vous renvoyez un homme qui a très soif et qui est déjà un peu alcoolique, vous lui faites l'aumône, il faut faire l'aumône à tout le monde. À ce moment-là, vous coopérez à augmenter son alcoolisme. Et donc, vous ne faites pas du bien. Vous coopérez au mal. Tout doit se faire avec discernement. C'est là, on voit très bien, la prudence. Mais évidemment, vous pouvez prendre aussi un autre raisonnement. Sa seule joie, c'est de boire un petit verre. Il en a déjà pris un peu, mais il n'a pas d'autre joie. Alors, je lui donne un tout petit peu d'argent pour qu'il puisse avoir un peu de joie. Puisqu'il n'est pas capable d'avoir d'autres jouissances que celle-là. Il faut quand même bien. L'homme a besoin d'une petite jouissance. Alors il a besoin de lui donner un petit peu. Oui, c'est ça qui est un discernement qui n'est pas toujours commode. Oui, celui qui dit « Ah, tu sens l'alcool, je te donne rien. » Ah oui, c'est ma seule joie. Il n'y a pas d'autre joie que celle-là. Alors, vous n'allez pas me refuser encore une petite joie. Vous voyez, alors là, il y a un petit discernement à faire, selon les circonstances de temps et de lieu. Oui, parce qu'on avait comme ça à Fribourg une clientèle qui était comme ça, n'est-ce pas ? Une clientèle particulière, qui est des gens qui... C'est-à-dire la clientèle de ceux qui ne peuvent vivre que s'ils ont cette petite joie, comme vous. La charité n'est pas inconsidérée. Vous voyez, on ne donne pas de solution, n'est-ce pas ? Ça dépend des circonstances de temps et de lieu. Je veux dire, de façon absolue, ne jamais donner l'argent. Je connais des gens qui donnent ça. Jamais donner l'argent. Donner toujours un bout de pain. Ils en ont assez du bout de pain. Alors, quelquefois, ils veulent un tout petit peu plus. Ils veulent autre chose. C'est pour ça que c'est pas si commode que ça. La charité n'est point inconsidérée, mais elle le serait si elle voulait faire du bien à tous sans exception, par exemple aux ennemis de l'État et à un excommunié. Ça, Hein. Vous voyez, l'œcuménisme, hein, c'est pas comme ça. Il y a des excommuniés matérialitaires et des excommuniés formalitaires. Hein. Alors vous devez faire des petites distinctions. Là. La distinction précédente s'applique aux excommuniés et aux ennemis du bien public. Leur retirer les bienfaits pour les retirer eux-mêmes de leur faute. Cependant, en cas de nécessité, de besoin urgent, il faudrait le secourir, mais d'une manière légitime, par exemple les empêcher de mourir de faim ou de soif, ou d'encourir un dommage d'égale gravité, à moins que la justice ne les ait condamnés. Même si la justice est condamnée, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de vivre jusqu'au bout ? Hein ? C'est difficile, ça. Un excommunié a-t-il le droit de vivre ? Vous voyez ? Les questions posées au pape, n'est-ce pas ? Les questions du temps de saint Thomas. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait celle-là. Est-ce que lui a un droit de vivre, très Saint-Père ? Ou est-ce que... Faut-il que la Suisse s'occupe des bienfaits, puisqu'elle a des bienfaits, des réserves, elle a un tiroir noir ? Est-ce qu'elle doit faire des bienfaits à un excommunié ? Ou est-ce qu'elle doit les mettre à la porte ? Vous voyez la question de la prudence. Alors je regarde l'excommunié, je regarde l'homme. Je ne donne pas en tant qu'excommunié, je donne en tant qu'homme. En tant qu'homme, il a le droit de vivre. C'est évident, il a le droit de vivre. C'est pendant la guerre, je vais raconter cette histoire, ce type qui était sorti, qui était repris sous les drapeaux, parce que c'était, mais qui était ressorti de prison. Alors il m'a raconté, j'ai dit, pourquoi tu es en prison ? Il était crocheteur de son métier à Lille. Crocheteur de son métier à Lille, dans le Nord. Un beau jour, il n'a rien trouvé. Alors il a pris du pain à la porte d'une boulangerie. Alors quand on l'a condamné, il a eu cette parole admirable que j'ai retenue, parce qu'il y a ces paroles comme ça qu'on retient. « Eh bien, monsieur le juge, vous auriez été dans ma condition, vous auriez fait comme moi. » C'est extraordinaire. C'est un bon sens, hein. Vous auriez été dans ma condition, vous auriez fait comme moi. Donc, c'est montrer le droit de l'homme à se nourrir. S'il n'avait pris du pain, il avait peut-être pris la caisse avec. Alors ça, il n'avait pas dit. Mais il avait peut-être sans doute qu'il y avait la caisse derrière. Mais prendre le pain, il avait le droit. Il n'aurait pas dit, monsieur le juge, vous auriez été comme moi, vous auriez pris la caisse comme moi. Non, vous auriez pris le pain comme moi. Et ça, là, oui. Mais ça, le pain, il avait le droit. Devons-nous faire plus de bien à ceux qui nous sont plus unis ? L'ordo caritatis, qu'on retrouve ici dans l'ordo bienfaisance. Et depuis que j'ai mis la lampe, c'est très illuminé, hein, tout de suite. Hein. Alors, saint Augustin répond, Ah non, mais c'est... Vous allez calir un nuage. Le nuage viendra et que... Saint Augustin répond, ne pouvant être utile à tous, vous devez faire du bien principalement à ceux que les temps, les lieux et les autres relations vous ont unis plus étroitement. Vous voyez, ça c'est du Saint-Augustin. On voit très bien ce qu'il veut dire. Hein. Parce que si vous devez faire du bien à tous les hommes qui ont faim, pas jamais. Alors, est-ce que vous êtes tenu à faire du bien à tous les hommes qui ont faim ? C'est un gros problème. Hein. Et non seulement pour les individus, mais aussi pour les couvents. Alors, voici la réponse de saint Thomas. La grâce et la vertu imitent l'ordre que la sagesse divine a mis dans la nature. Ça, c'est très, très intéressant. Et c'est pas commode du tout. À bien voir. Gratia et virtus imitantur naturae ordinem que est divina sapientia institutus. Parce que d'habitude, voyez bien, d'habitude, on fait ce point de vue-là. Vous avez la nature et la grâce. Vous dites la nature et la grâce. La grâce est plus parfaite que la nature. Donc, les exigences de la grâce ne sont pas celles de la nature. C'est sûr. Comment nous tomberions dans un humanisme intégral et on ne verrait plus du tout les exigences propres de la grâce. Il y a un rythme de grâce qui est trinitaire. Par ma grâce, je suis au rythme de la vie de la très sainte Trinité. Tandis que par ma nature humaine, je ne suis pas au rythme de la très sainte Trinité. Et donc il y a des exigences de la grâce que la nature ne connaît pas. C'est bien évident, ce qu'on disait tout à l'heure. La nature a ses exigences propres, elle a ses exigences propres comme nature. Un développement de la nature, c'est normal. Et la grâce me met dans un nouveau développement qui n'est plus du tout le même.